Bon, il est, disons, 18 h un vendredi soir.
Ah, le pire moment.
Mais exactement, c'est le classique. Un email tombe dans la boîte de réception. Et évidemment, il y a la fameuse mention urgente en lettres capitales dans l'objet.
Bien sûr.
Et ça concerne un dossier hyper complexe qui, en toute honnêteté, aurait très bien pu attendre le lundi matin tranquille.
C'est toujours comme ça, ouais.
Et là, la personne derrière son écran, bah, elle sent immédiatement son estomac se nouer, quoi. La respiration se bloque un peu, elle soupire, elle annule mentalement le ciné ou le dîner prévu avec sa famille ce week-end, et elle tape frénétiquement sur son clavier, bien reçu, je m'en occupe.
C'est douloureux, rien que de l'entendre.
Mais oui, moi, ça me donne des sueurs froides. Ou alors, prenons un autre cas de figure qu'on connaît tous, tout aussi pesant, hein, une grande réunion de direction.
Ah oui, la fameuse réunion.
Voilà. Une idée stratégique absolument absurde est lancée. Ou en tout cas, un truc profondément déconnecté de la réalité du terrain. Et là, l'idée est validée dans un silence de plomb.
Le silence absolu.
C'est ça. Autour de la table, les regards se fuient. Personne, mais absolument personne, ose contredire le grand patron. On ravale ses arguments, on baisse la tête et on retourne à son bureau avec, tu sais, ce petit goût amer de défaite silencieuse.
Ouais, ce sont vraiment des scénarios universels en fait. Et ce qui est fascinant d'un point de vue purement comportemental, c'est la mécanique de notre réaction face à cette pression.
C'est-à-dire?
Bah, l'être humain, face à une situation qu'il perçoit comme menaçante dans son environnement social, et le bureau en est clairement un, a tendance à réagir de manière très archaïque.
Genre le mode survie.
Exactement. C'est les cerveaux reptiliens qui prennent le relais. En gros, soit on se fige, on se soumet en silence pour éviter d'être exclu du groupe, de la tribu en quelque sorte, soit on accumule cette frustration, on la garde bien au chaud, jusqu'à exploser de manière totalement disproportionnée sur un sujet mineur.
Ah oui, le fameux pétage de plomb pour une histoire d'agrafeuse.
Voilà, c'est ça. On fonctionne en binaire, mais cette binarité, elle a un coût psychologique ravageur pour l'individu et un coût d'efficacité colossal pour l'entreprise au final.
C'est exactement cette souffrance invisible, cette boule au ventre qu'on ramène à la maison qui rend notre décryptage d'aujourd'hui si pertinent. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on précise que notre échange, il s'inscrit dans un cadre un peu particulier aujourd'hui.
Tout à fait.
C'est une plongée qui vient prolonger une interview hyper passionnante de Frédéric Lévy. Une interview qui a été réalisée par l'espace de ressources en management, lesclésdumanagement.com.
Un très bel espace d'ailleurs.
Oui, super riche. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent explorer le sujet directement à la source, l'interview complète est à retrouver sur leur plateforme. Mais si on en revient à cette fameuse réunion ou à cet email 18 h, moi j'ai une question.
Je t'écoute.
La vraie question qui émerge de tout ça, c'est: et si la solution n'était pas de subir? Mais bon, soyons réalistes 2 secondes. Face à un manager tyrannique ou à une hiérarchie qui tient littéralement ta fiche de paie entre ses mains, est-ce que dire ce qu'on pense, c'est pas juste une forme de suicide professionnel?
Ouais, c'est la crainte légitime que tout le monde partage. Et c'est justement là que le profil de l'auteur Frédéric Lévy prend tout son sens. Parce que, en fait, il ne répond pas à cette angoisse par de la théorie abstraite. Il faut bien comprendre qui il est.
Vas-y, dis-nous.
Ce n'est pas un chercheur enfermé dans un laboratoire de sociologie, tu vois. C'est un vrai praticien. Il est coach, formateur, mais aussi, et c'est un détail crucial sur lequel on va revenir, il est sophrologue certifié.
Ah oui, sophrologue 1. C'est pas comment ça?
Non, c'est rare. Et surtout, il a passé plus de 25 ans sur le terrain, en entreprise, en France, mais aussi à l'étranger. Il a accompagné des milliers de personnes.
Des milliers, ouais.
Des collaborateurs juniors qui sont complètement tétanisés par l'autorité, des managers intermédiaires, tu sais, ceux qui sont coincés entre le marteau et l'enclume.
La pire place.
Complètement. Et il a même accompagné des dirigeants de comités exécutifs.
Et c'est vraiment ça qui m'a marqué en fait. C'est ça qui fait la différence. Parce que on va pas se mentir, la littérature managériale a souvent ce gros défaut d'être complètement hors sol.
Oui, très théorique.
C'est ça. On y lit des grands principes magnifiques sur le leadership bienveillant, l'empathie, tout ça. Mais ça s'effondre à la seconde où on met les pieds dans un véritable open space sous tension.
C'est clair.
Mais ici, dans cet ouvrage, on sent l'odeur de la machine à café, quoi. On sent la tension des salles de réunion. L'auteur a vraiment vu les dégâts d'un management par la peur. Il a vu l'épuisement des gens qui n'arrivent jamais à dire non. En gros, il connaît la mécanique de la peur au bureau, de l'intérieur.
Exactement. Et c'est cette immersion prolongée dans la réalité crue des organisations, hein, qui lui permet d'aborder le concept d'assertivité. Et attention, il ne l'aborde pas du tout comme une formule magique ou un genre de bouton sur lequel il suffirait d'appuyer.
Genre, hop, je suis assertif demain matin.
Voilà, c'est pas ça du tout. Il l'aborde comme une vraie compétence de survie et de développement professionnel. Ce livre, c'est vraiment un condensé d'expériences empiriques.
Alors justement, parlons-en de ce mot « assertivité », parce que c'est un terme qu'on voit fleurir un peu partout en ce moment.
Oui, c'est très à la mode.
C'est souvent balancé comme un reproche, d'ailleurs, pendant les entretiens annuels d'évaluation. Genre, bon, il faudrait faire preuve de plus d'assertivité cette année.
Ah oui, le fameux axe d'amélioration.
C'est ça, comme si c'était juste un synonyme chic pour dire « prends confiance en toi » ou bien « apprends à dire non ». Mais j'imagine que c'est beaucoup plus profond que ça, non ?
Infiniment plus. Et d'ailleurs, le terme n'a absolument rien d'une nouvelle mot RH, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Ah bon ? Ça vient d'où alors ?
Ça a été forgé aux États-Unis dans les années 40 par un psychologue qui s'appelait Andrew Salter. Et ce que l'auteur nous explique avec brio, c'est que l'assertivité n'est pas du tout synonyme de confiance en soi.
Ah ça, c'est contre-intuitif.
Très contre-intuitif. Parce qu'en fait, on peut avoir une immense confiance en soi, une estime de soi totalement débordante et être totalement dépourvu d'assertivité.
En écrasant les autres, par exemple.
Exactement. En écrasant systématiquement les collègues pour imposer ses propres idées. L'assertivité, c'est le mécanisme psychologique qui consiste à défendre ses droits, ses propres opinions et ses besoins. Mais, et c'est là tout le secret, tout en accordant très exactement la même valeur et le même respect aux droits et aux opinions de l'interlocuteur. C'est vraiment l'art de l'équilibre parfait.
D'accord, je vois. En fait, pour imager ça, il y a un concept hyper connu dans le milieu du coaching, une sorte de triptyque comportemental.
Oui, je vois très bien de quoi tu parles.
Au travail, quand on est sous pression, on a souvent l'impression qu'il n'y a que trois rôles disponibles au casting, quoi. Le premier, c'est le paillasson.
Le paillasson, ouais.
La passivité totale, la soumission. On se laisse littéralement marcher dessus. Le deuxième, c'est le hérisson. Là, c'est l'agressivité. On sort les piquants, on attaque, on hausse le ton pour se protéger.
La défense par l'attaque.
Voilà. Et le troisième, un peu plus subtil, c'est le polisson, la manipulation. On n'affronte pas les choses directement, mais on utilise la culpabilisation, les petits sous-entendus toxiques pour obtenir ce qu'on veut.
C'est une excellente analogie.
Donc, si je comprends bien, l'assertivité, ce serait le refus de ces trois masques-là.
C'est tout à fait ça.
Mais alors, la vraie question que tout le monde se pose, c'est pourquoi c'est si difficile de trouver cette voie du milieu ? Pourquoi notre premier réflexe est quasiment toujours de fuir, d'attaquer ou de manipuler ? Et surtout, comment dire non à son boss sans déclencher un conflit ouvert, tu vois ? Le livre promet une méthode concrète, mais je me demande bien laquelle.
Et le livre contient effectivement une méthode très précise, structurée autour de 5 concepts clés en français. On va évidemment garder un peu de mystère là-dessus pour ceux qui nous écoutent.
Oui, il faut garder le suspense.
Mais pour répondre à ta question sur la difficulté de trouver cette voie du milieu, la réponse réside dans la mécanique même de nos émotions. Si on reprend ton analogie du paillasson et du hérisson, elle illustre parfaitement nos mécanismes de défense.
Comment ça ?
Prenons le cas de la passivité, le paillasson. Ce qui se passe à l'intérieur de la personne, c'est de l'accumulation pure et simple. C'est le principe de la cocotte minute dont on aurait soudé la soupape.
Ah oui, l'image est parlante.
La personne encaisse. Elle encaisse une remarque injuste le lundi, une surcharge de travail le mercredi, un manque de respect le jeudi, et la pression monte, inlassablement. L'absence d'assertivité, ça crée une dette émotionnelle.
Et un jour, boum !
Un jour, pour une brutille totale, genre un stylo déplacé sur le bureau ou un email un peu sec, la cocotte explose. Et là, le paillasson se transforme brusquement en hérisson, de manière totalement irrationnelle aux yeux de l'entourage.
Bah oui, les collègues se disent « mais qu'est-ce qui lui prend ? Il est fou ».
Exactement. Et c'est précisément ce cycle destructeur que la méthode du livre vient briser, en permettant d'ouvrir la soupape régulièrement, avec mesure et justesse.
Et ce qui rend cet ouvrage, je trouve, particulièrement riche pour comprendre ça, cette histoire de soupape, c'est son approche globale. Parce que le livre ne se contente pas de nous dire quoi penser, il nous explique comment le corps intervient.
Tout à fait.
Et c'est là que la casquette de sophrologue de l'auteur entre en scène, non ? Parce que, en vrai, tu peux avoir préparé le meilleur argumentaire du monde pour dire non à ton boss. Si t'as la voix qui tremble, les épaules rentrées et le regard qui fixe tes chaussures, bon bah le message est mort dans l'œuf.
C'est une analyse fondamentale que tu fais là. L'assertivité, telle que décrite par Frédéric Lévy, elle est profondément holistique. L'approche purement intellectuelle ou verbale, ce que proposent 90% des formations en communication classique, c'est insuffisant.
Ça marche pas.
Non, ça ne marche pas. Le livre met vraiment en lumière le fait que notre physiologie trahit nos intentions. C'est le système nerveux autonome, et plus particulièrement le nerf vague, qui réagit à la menace.
Le corps parle avant nous, en fait.
Toujours. Si ton corps envoie des signaux de peur ou de soumission, le cerveau de ton interlocuteur, même de manière complètement inconsciente, il le perçoit. Et il prend l'ascendant.
C'est fou, ça!
C'est de la biologie, hein. L'auteur intègre donc des techniques issues de la sophrologie. Des choses très concrètes. L'ancrage au sol, la maîtrise de la respiration abdominale pour faire redescendre le rythme cardiaque avant une réunion difficile. La gestion du regard. Il montre vraiment comment aligner le discours verbal avec la posture physique. Le corps doit soutenir les mots, pas les contredire.
C'est vraiment fascinant, cette connexion intime entre le physique et le statut social dans l'entreprise. Mais bon, pour ancrer tout ça dans le réel, le livre utilise aussi des études de cas. Et je dois dire, elles sont d'une humanité bouleversante.
Ah oui, les études de cas sont remarquables.
Moi, j'ai beaucoup pensé à l'histoire de Simon, qui est détaillée dans l'ouvrage. Simon, c'est un directeur financier. Il a un poste ultra stratégique. Il est vu comme quelqu'un de brillant par sa direction générale.
Le cadre parfait sur le papier.
Sur le papier, oui. Mais au quotidien, c'est un cauchemar absolu pour ses équipes. Il les terrorise. Et ce qui est incroyable pendant la lecture, c'est qu'on découvre que Simon n'est pas du tout un psychopathe ou quelqu'un de fondamentalement méchant.
Non, pas du tout. En fait, le cas de Simon illustre à la perfection un mécanisme psychologique redoutable, ce qu'on nomme la colère défléchie.
La colère défléchie ?
Oui. Pourquoi un manager terrorise-t-il son équipe ? Bien souvent, ce n'est pas par sadisme, c'est par pure impuissance émotionnelle face à sa propre hiérarchie. Dans le livre, on voit que Simon subit une pression colossale de la part de ses propres patrons.
Et il n'ose rien dire ?
Rien. Face à eux, il se fige. Il adopte un comportement de soumission totale. Son cerveau génère un stress intense, du cortisol s'accumule. Et comme il n'a pas les outils assertifs pour traiter ce stress vers le haut, c'est-à-dire poser des limites ou exprimer ses réserves à la direction, bah, il doit décharger cette tension quelque part.
Vers le bas.
Exactement. Sur des cibles qu'il perçoit comme moins menaçantes. Ses subordonnés. Donc, le manque d'assertivité à un niveau hiérarchique crée directement de la toxicité au niveau inférieur.
C'est vertigineux de réaliser ça. Le tyran de l'open space est en fait un employé terrorisé par les tâches du dessus.
C'est souvent la réalité.
Et alors, à l'autre bout du spectre, il y a le cas de Camille. Ah, Camille. Camille, c'est l'assistante de direction que tout le monde rêve d'avoir.
La perle rare.
Mais oui, elle est dévouée, elle est bienveillante, elle porte littéralement son service à bout de bras. Sauf que, bah, elle est au bord de l'effondrement total. Le burn-out la guette. Et pourquoi ? Parce qu'elle a complètement fusionné son identité avec son utilité au bureau.
C'est un grand classique, malheureusement, hein.
Elle absorbe le travail des autres, les retards des autres et même les angoisses de ses propres managers. Dans son esprit, dire non, je ne peux pas prendre ce dossier, ça équivaut à dire je suis incompétente et je ne mérite pas ma place.
Le cas de Camille, il décortique vraiment le piège de ce qu'on appelle la suradaptation. C'est le syndrome du sauveur, mais poussé à l'extrême. Et l'auteur nous fait comprendre que le manque d'assertivité de Camille, il vient d'une croyance limitante très ancrée en elle.
Laquelle ?
Cette idée fausse que, pour être aimé et respecté professionnellement, il faut être indispensable et corvéable à merci. Et c'est là que le livre devient très pratique, parce qu'il propose une méthode de communication très précise, en 4 étapes, pour aider des profils comme Camille.
Oui, pour formuler un refus sans froisser l'autre.
Voilà, et surtout sans culpabiliser soi-même après. C'est une mécanique redoutable d'efficacité. Mais là encore, on ne va pas révéler ces 4 étapes, il faudra lire l'ouvrage pour s'en emparer.
Absolument, on garde la recette secrète. Mais tu sais, tout ça soulève quand même une question beaucoup plus large. D'où vient cette incapacité collective qu'on a à gérer nos émotions au travail ? Pourquoi on a cette impression tenace que le bureau, c'est un lieu où il est interdit d'être un humain complet ?
C'est une excellente question. Et l'auteur fait un détour historique dans le livre pour l'expliquer.
Oui, ça m'a scotché cette partie.
Il remonte aux racines même de l'organisation du travail moderne, le taylorisme.
Le travail à la chaîne, tout ça ?
C'est ça. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, quand l'industrie s'organise de manière dite scientifique, le postulat de base, c'est que l'ouvrier voit être un simple rouage de la machine. Or, une machine, bah, ça n'a pas d'état d'âme.
Ça ne pleure pas, ça ne se met pas en colère.
Exactement. Ça n'a pas besoin de poser des limites, donc l'émotion a été théoriquement et pratiquement bannie de l'entreprise, parce qu'elle était perçue comme l'ennemi absolu de la productivité.
D'accord, mais on n'est plus à l'usine aujourd'hui.
Certes, on a remplacé les usines par des open space, on a mis des baby-foot, des espaces de détente avec des poufs colorés, mais l'auteur nous explique que le logiciel psychologique du taylorisme tourne toujours en tâche de fond.
Ah ouais.
Exprimer une émotion ou poser une limite ferme, c'est encore souvent perçu, de manière inconsciente, comme une anomalie dans la chaîne de production.
C'est une prise de conscience hyper brutale, je trouve. En gros, on traîne les fantômes de la révolution industrielle dans nos boîtes mail.
C'est une très belle façon de le formuler.
Mais attends, je voudrais quand même challenger un peu cette vision universelle. Parce que, est-ce que cette injonction à l'assertivité, ce fameux droit de s'affirmer dont on parle, est-ce que c'est vraiment le même pour tout le monde?
C'est-à-dire?
Bah, soyons très honnêtes, selon qu'on soit un homme en costume de 50 ans ou une jeune femme de 25 ans, la perception d'un non très ferme par la hiérarchie n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même.
Ah, c'est une objection essentielle, et l'ouvrage a l'immense mérite de ne pas l'éluder.
Il en parle?
Oui, l'auteur met en lumière un phénomène sociologique très documenté, la fameuse double contrainte qui pèse spécifiquement sur les femmes dans le milieu professionnel.
Oui, c'est tellement vrai.
Les biais de genre font que notre société associe traditionnellement l'assertivité et la fermeté à des qualités masculines de leadership. Donc, lorsqu'un homme s'affirme, lorsqu'il tranche ou qu'il dit non, il est très souvent perçu comme courageux et charismatique.
Un vrai leader, quoi.
Voilà. Mais lorsqu'une femme adopte exactement la même posture, qu'elle utilise les mêmes mots et le même ton, elle est statistiquement beaucoup plus exposée à des jugements négatifs.
Elle va être étiquetée de façon très dure.
Exactement. On va dire d'elle qu'elle est autoritaire, ou froide, voire agressive. Et le livre prend vraiment en compte ce biais cognitif. Il propose des stratégies pour naviguer à travers ce champ de mine sociologique, en validant le fait que, oui, l'assertivité demande un calibrage encore plus fin pour les femmes face à ces stéréotypes.
C'est vraiment ce qui fait la force de cette lecture pour moi. Elle ne verse pas dans la pensée marique. Elle prend en compte la dureté du réel. Et d'ailleurs, en parlant de concret, le livre ne s'arrête pas au constat. Il se termine par 10 plans d'action sur mesure.
Oui, très pratique.
Sans les dévoiler, bien sûr, on peut dire que la granularité est impressionnante. Il y a un plan pour le jeune pro qui a peur de prendre la parole face aux anciens, un autre pour le manager qui fuit le conflit comme la peste, un plan pour l'expert technique, dont l'opinion est ignorée par les commerciaux, et même ça, j'ai adoré, un plan pour l'entrepreneur indépendant.
Tout à fait. L'inclusion de l'entrepreneur indépendant, elle est particulièrement pertinente.
Ah bah oui. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas de patron.
Exactement. On imagine souvent le travailleur indépendant comme quelqu'un de totalement affranchi des contraintes hiérarchiques. Mais en réalité, face à un client qui exige des délais impossibles ou un client qui rechigne à payer le juste prix, le freelance se retrouve face aux mêmes terreurs archaïques de rejet et de manque.
Et il a peur de perdre le contrat, quoi.
C'est ça. S'il n'est pas assertif, il brade ses prix ou il sacrifie sa santé et ses nuits par peur de contrarier le client.
Au final, quand on balaye tous ces profils, on se rend compte d'un truc majeur. Ce livre s'adresse littéralement à tout le monde. C'est le grand paradoxe de l'assertivité. On pourrait croire que c'est une technique de communication un peu d'élite, réservée aux grands patrons ou aux négociateurs de crise, mais pas du tout.
C'est en effet une compétence profondément démocratique. Qu'on soit tout en bas de l'échelle hiérarchique, au milieu ou tout en haut du gratte-ciel, le besoin fondamental d'être respecté dans son intégrité et d'établir des relations saines et durables, c'est le même pour tous.
C'est universel.
L'assertivité, telle que détaillée par Frédéric Lévy, c'est vraiment l'outil qui permet de pacifier l'environnement de travail. C'est comprendre qu'on ne peut absolument pas contrôler les réactions de son manager ou l'humeur de son client. Par contre, on a le pouvoir total sur la façon dont on décide d'y répondre. C'est une véritable reprise de pouvoir sur soi-même.
Et c'est peut-être la plus belle leçon philosophique à en tirer même avant d'ouvrir le livre, tu vois. Le simple fait de réaliser qu'il existe une alternative à la soumission muette ou à la colère destructrice, bah c'est déjà un immense soulagement. C'est la fin de la fatalité.
Absolument. Et d'ailleurs, si on devait laisser une dernière réflexion à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une pensée un peu provocatrice qui sous-tend toute la philosophie de cet ouvrage, ce serait celle-ci.
Je t'écoute.
Nous passons souvent notre carrière à chercher des coupables à notre mal-être professionnel. Nous pointons du doigt le manager toxique, le collègue envahissant, l'entreprise pressurisante. Mais et si notre pire ennemi professionnel n'était aucun d'entre eux?
Et c'est qui alors?
Et si notre pire ennemi était notre propre peur du jugement? Cette petite voix intérieure qui nous dit que si nous sommes authentiques, si nous disons vraiment ce que nous pensons, nous serons rejetés. Le livre nous amène à cette conclusion incontournable. S'accorder soi-même du respect et assumer qui l'on est est la condition préalable et non négociable pour que le monde extérieur nous respecte en retour.
Ouah. C'est sur cette pensée hyper puissante qu'on va clore cette plongée, ne plus attendre que l'autorisation d'exister vienne des autres, en fait. Et pour tous ceux qui veulent découvrir les mécanismes précis, les fameuses étapes de communication et les exercices de posture pour y parvenir, bah, la lecture de cet ouvrage est juste incontournable.
Je confirme.
Le livre s'intitule « Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds », « Le pouvoir de l'assertivité au travail ». L'auteur, c'est donc Frédéric Lévy et c'est publié aux éditions Vuber au prix de 22 euros.
22 euros, ce qui, entre nous, représente un investissement assez dérisoire quand on mesure le coût émotionnel d'une soumission au quotidien. Et nous rappelons également que cette réflexion fait écho à l'interview de l'auteur, que chacun peut retrouver à approfondir sur le très bon espace de ressources lesclésdumanagement.com.
Un immense merci pour cette analyse pointue. Et à tous ceux qui nous écoutent, nous vous souhaitons des réunions où votre voix porte avec justesse, des relations professionnelles libérées de la peur et surtout des week-ends préservés.
C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
Et la prochaine fois qu'un email soi-disant urgent tombe un vendredi soir à 18h, bah vous saurez qu'une troisième voie est possible. À très vite!